9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM comme chaque dimanche. C'est Voix au chapitre. Le plaisir de vous retrouver chaque semaine. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Bonjour, Jennifer Yézid.
Bonjour, enchantée.
Le plaisir de vous accueillir ce dimanche matin, Jennifer Yézid. Vous êtes l'auteur du livre Malika. Généalogie d'un crime policier, c'est le titre de votre ouvrage. Il vient de paraître aux éditions Hors d'atteinte. Le plaisir de vous accueillir vraiment et avec émotion, Jennifer Yézid, pour votre livre, pour ce récit que vous nous livrez. Là, un récit évidemment authentique, douloureux de votre histoire familiale, puisqu'il s'agit de l'histoire de Malika. Et un récit est une restitution d'un moment de vie. Le vôtre, en tout cas celui de votre famille que vous nous racontez là. Et peut-être qu'on va commencer par nous présenter Malika et nous dire de quoi il s'agit dans ce récit. Et tout au long de notre rencontre, ce dimanche matin, nous parlerons de Malika, de vous, de votre famille, de cette recherche de vérité dans cette histoire. Dites-nous qui était Malika, si vous le voulez bien, Jennifer Yézid.
Malika était ma tante, cette petite fille âgée de 8 ans. A été tuée en 73. C'était une petite fille magnifique, voilà, qui avait la joie de vivre. Comme tout enfant de 8 ans qui jouait avec les enfants, qui avait des projets, qui a été malheureusement tuée par un gendarme.
Malika a été tuée par un gendarme, elle avait 8 ans, vous venez de le dire, c'est douloureux. Vous le portez aujourd'hui dans votre histoire singulière, votre histoire personnelle, puis dans l'histoire familiale. Et qu'est-ce qui a fait que un jour, vous avez déclenché pas que l'envie, mais la volonté de raconter l'histoire de Malika, de cet assassinat, on va nommer les choses, on va nommer l'histoire en tout cas. Et à quel moment se déclenche en vous, voilà, cette restitution de cette généalogie, comme est le sous-titre du livre, c'est quand même pas rien de le dire comme ça. Donc, comment vous décidez, quand vous le décidez?
Lors de ma rencontre avec ma grand-mère, j'ai rencontré ma grand-mère à l'âge de mes 10 ans. Et exactement, en fait, à mes 12 ans, on est dans sa chambre, on discute, on est assis sur son lit. Et là, elle me regarde, elle me dit, mais tu sais, ma fille, tu t'appelles Malika, parce que c'est mon deuxième prénom, mais il y a une raison. Alors du coup, je lui pose la question, mais okay, pourquoi je m'appelle Malika? Et là, elle a le courage et cette force de me raconter l'histoire de ma tante. Voilà. L'histoire de ma tante qui a été tuée il y a 8 ans. Et moi, je la regarde choquée.
Ébranlée.
Choquée, ébranlée. J'ai 12 ans et je lui promets que je ferai quelque chose pour cette petite. Donc, je sais pas trop, soit une petite manifestation, écrire, parce que enfant j'adorais déjà la littérature. Et ma grand-mère était analphabète, donc elle m'a toujours forcée à bien travailler à l'école. Donc j'ai cette détermination de commencer à rechercher, d'écrire des petits mots dans mon journal intime à l'âge de 12 ans. Et d'écouter personne, n'en faire qu'à sa tête.
Alors, Malika, elle a été tuée au domicile par un gendarme. Racontez-nous, pas pour être dans le sensationnel, mais pour nous donner le contexte de cette violence qu'a traversée la famille, puisque ça s'est passé en famille.
C'était un dimanche matin. Deux gendarmes étaient en bas de la cité et recherchaient mon oncle, Nasser, l'aîné, qui avait 14 ans, pour un vol de mobylette. Et Malika jouait avec ses copines aux poupées. Elle a entendu le nom Yézid, Nasser. Elle a fait que son devoir de sœur, en fait, protéger son frère. Donc elle est rentrée dans l'appartement en catastrophe en disant « Attention Nasser, les gendarmes te cherchent. Fuis. » Sauf que les gendarmes l'ont suivi. Ils ont toqué à la porte, mon grand-père a ouvert, ils sont entrés direct dans l'appartement. Il y en a un qui a sorti son arme et menacé mes grands-parents, ma mère et mes tantes. Et il y en a un qui a pris de force Malika pour l'enfermer dans la chambre. Pendant un quart d'heure, elle a été soi-disant interrogée, parce que souvent les articles de presse parlent d'un interrogatoire musclé, mais en fait elle a été tapée, violentée au maximum. Ma grand-mère était dans le couloir, entendait tout ce qui se passait, mais en fait la famille ne pouvait pas agir parce que le gendarme avait sorti son pistolet et menacé. Et un quart d'heure après, elle est sortie de cette chambre, elle s'était ruinée dessus. Donc déjà ça, c'est un choc psychologique. Et elle est tombée inconsciente par terre. Il y avait du sang sur les murs de la chambre des enfants. Et quand les policiers sont sortis de l'appartement, ils ont dit exactement « rentre chez toi, Boum Diem ». D'ailleurs, quand le gendarme est rentré dans la chambre, il a dit « on va t'interroger comme à l'époque de l'Algérie, par rapport à la guerre d'Algérie ».
Toute cette violence policière qu'elle subissait là, c'était aussi remontée dans ce passé colonial, c'était une souffrance aussi.
Et 4 jours après, elle est morte à la Salpêtrière.
Et dès que vous avez su par votre grand-mère toute cette histoire qui vous la raconte, là vous l'écrivez dans le livre, d'ailleurs le livre est bouleversant, hein, je le dirai encore, parce qu'il y a à la fois votre écriture, le récit que vous nous restituez, et puis il y a en italique justement tous les mots des uns et des autres qui vont parler, dont votre grand-mère qui va vous raconter ce que vous nous dites là, et puis tous les paquets qu'elle aura avec des images, des photos, tout un tas de documents qui vont vous servir à mener l'enquête, mais on y reviendra dans une seconde partie. Qu'on continue sur cette intime de votre histoire, puisque vous le portez, je l'ai dit, ça veut dire que à partir du moment où votre grand-mère vous raconte Malika, votre prénom, et l'histoire de Malika, votre tante qui a eu 8 ans, qui a été tuée, comment vous allez vivre avec ça? Ça va être évidemment douloureux, mais au-delà de ça, ça veut dire quoi, concrètement? Que vous mûrissez cette quête de vérité, avant de parler de l'enquête, mais juste comment vous le vivez, vous?
En fait, elle m'explique cette histoire, elle me montre surtout le livret de famille, où là, je vois que la plupart de la famille n'a pas passé la trentaine. Donc, je comprends mieux pourquoi, en fait, je connaîtrai jamais mes oncles et tantes, pourquoi ma mère est morte si jeune.
La famille est nombreuse et la famille a terriblement souffert aussi des disparitions, vous venez de le dire. Je vais juste lire une demi-page, si vous me le permettez, par rapport à ce que vous dites là, avec émotion. Et c'est votre grand-mère, donc, qui vous parle. J'ai 12 ans. Elle me parle comme à une adulte, ça me fait du bien. Ma fille, est-ce que tu sais pourquoi ta mère t'a appelée Malika? Je ne sais pas. Alors ce jour-là, entre deux respirations fébriles, elle me raconte tout. Les gendarmes sonnent, mon mari ouvre la porte, l'un d'eux a voulu frapper mon petit Mustapha qui avait 8 ans, le jumeau de Malika. Mon mari a menacé, attention, ne le touchez pas. Un autre gendarme est resté avec mon mari dans le salon pendant que son collègue a ouvert les portes de toutes les chambres avant de tomber sur Malika et de la gifler. Vous n'avez pas de la frapper, j'ai dit. Ta gueule, toi, on m'a répondu. Ensuite, il y a eu du bruit, une porte a claqué, j'ai entendu les cris de ma fille qui m'appelait. Maman, maman, maman. J'étais prête à défoncer la porte qu'il avait fermée à clé. Et je n'entendais pas tout. Qu'est-ce qu'il a volé, mon frère? Là, c'est quand votre grand-mère raconte, hein, un peu plus loin. Elle criait en même temps qu'elle pleurait. Quelques jours après, elle est morte à l'hôpital. C'est Malika qui... Elle vient d'expliquer que Malika est tombée et qu'elle avait son pantalon mouillé puisqu'elle avait uriné sur elle par cette peur. Un silence s'en vient. On s'est battu, mais ils ont dit que c'était ton grand-père qui l'avait giflé, que c'était à cause de cela qu'elle était morte. Qui peut le croire? Il y a eu un non-lieu. Un silence encore. Voilà, ma fille, maintenant tu sais tout. C'est dur, mais c'est important. C'est pour ça que tu portes le prénom de ta tante. Je ne réalise pas tout de suite l'ampleur du saccage. Dans mon esprit se dessine peu à peu son point de départ. Malika est l'élément déclencheur d'une mécanique tragique et implacable au bout de laquelle je me trouve. Et là, il y a l'énumération douloureuse dont vous avez parlé. La disparition en 1973 de Malika, en 1988 de Salha, qui est retrouvée pendue au centre pénitentiaire pour femmes de Fleury-Mérogis, et d'autres frères et sœurs, Mustapha, Faïza, Nadia et Belkacem, qui sont tous morts dans des situations dramatiques. Le drame étant la déchéance qu'elles ont subie. On va revenir sur votre histoire, Jennifer Yézid, parce qu'elle est douloureuse, mais elle est importante à dire ce matin à Beurre FM. Malika, généalogie d'un crime policier, c'est le titre de votre ouvrage. Il vient de paraître aux éditions Hors d'Atteinte. On vous retrouve dans un instant.
Chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Poursuivons notre rendez-vous ce dimanche matin. Je rappelle que je reçois Jennifer Yézid. Elle est l'autrice de ce livre, Malika, généalogie d'un crime policier. C'est le titre de son ouvrage. Il vient de paraître aux éditions Hors d'Atteinte. Et je rappelle que ce livre est un récit. Il témoigne, il restitue l'histoire de la nièce de l'autrice, Malika Yézid, qui a été tuée en 1973 par un gendarme alors qu'elle avait 8 ans. Dans une première partie, nous avons évoqué cette séquence intime, j'allais dire, je me tourne vers vous, Jennifer Yézid, de votre histoire. On va évoquer maintenant, si vous le voulez bien, la partie, cette détermination que vous avez eue à être en quête de vérité, de savoir ce qui s'est passé réellement et de mener justice face à ce crime, puisqu'on va le nommer ainsi, qui est resté quasiment impuni. Donc ça a été conclu, je crois, par un non-lieu. Donc, mais avant ça, vous avez cette volonté de, pour répondre à votre grand-mère, je crois, de mener l'enquête. Comment vous avez procédé pour...
Alors j'ai commencé, j'avais 12 ans, mais c'était difficile parce qu'il n'y avait pas trop Internet, c'était compliqué. et j'ai vraiment commencé à attaquer le sujet de recherche à mes 18 ans. Ma grand-mère est décédée à mes 18 ans et j'ai accédé aux valises de ma grand-mère. Parce que ma grand-mère avait chaque valise de chaque enfant. Et du coup, en fait, quand j'ai ouvert la valise de Malika, et là, j'ai trouvé des documents, des tracts, des journaux. Parce qu'on a fait passer ma grand-mère en disant qu'elle était folle, que c'était pas vrai, c'était une fausse histoire, fallait plus que je la voie. Et là, je dis, mais non, mais mamie avait toute sa tête. Et quand j'ai vu tous ces documents, puis ma mère d'accueil aussi m'a motivée. Elle m'a dit, il faut faire quelque chose avec ces documents. Et là, j'ai pas arrêté. J'ai recherché, je suis partie en Algérie. J'ai recherché les écrivains aussi qui avaient cité le nom de ma tante. J'ai passé des années, oui, à rechercher. Moi, j'ai aussi fait ma vie à côté, mais c'était important. Puis c'était une promesse, je l'avais promis à ma grand-mère. Et dès que je suis tombée enceinte, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais laisser à mon enfant? Qu'est-ce que je vais lui dire? C'est important, la transmission de l'histoire. Et en fait, de grandir à l'aide sociale à l'enfance et d'avoir peu de choses sur sa famille, de documents, de dossiers. Donc j'ai dit, il faut que je laisse quelque chose à mon fils. Donc je me suis encore plus battue, encore plus recherchée. J'ai eu cette volonté de rechercher et de terminer ce livre. Et de toute façon, je continuerai de rechercher, je pense, toute ma vie.
Alors, pour rechercher, pour cette transmission de savoir votre famille, on va rappeler que vous êtes... J'ai rappelé les deuils que votre famille a traversés avec les enfants, la fratrie qui est décédée. Vous êtes la dernière des Yézides, c'est ça, dans la continuité. Mais chercher, ça veut dire qu'il a fallu se rapprocher de la police, avoir un avocat, regarder la presse et tout ce que vous avez emmagasiné qui était dans les cartons de votre grand-mère. Mais c'était pas facile comme enquête, finalement, comme recherche, je veux dire.
Non, c'était pas du tout facile. Alors, je me suis pas rapprochée de la police, c'était évident, voilà. Mais après, j'ai la chance de.
Un avocat a dû s'en charger quand même pour que vous ayez. Non, non.
Non, aucun.
Pour que vous ayez la vérité sur le gendarme, là, il n'y a pas eu de.
Les gens vieillissent, voilà. Mais puis, c'est encore une histoire où on ferme sa bouche, malheureusement. Voilà. Et faut attendre que. D'avoir accès, et c'est très très long, ça peut être 50 ans après la mort, 70 ans après la mort, et c'est pas normal parce qu'en plus je suis la dernière de la famille. Donc normalement tout document devrait me revenir. Donc, c'est une histoire qui a été on a dit que c'était mon grand-père, donc tout le monde va se taire, mais j'ai énormément de chance parce que tous les habitants de Fresnes, de la cité d'Écroux. Voilà, quand on vient d'une cité, on est solidaire, on a un grand cœur. Donc j'ai interrogé tous les voisins. J'ai essayé d'accéder à la mairie de Fresnes. Bien sûr, j'ai été boycottée. Donc, voilà. Et puis j'ai fait des appels. Voilà, des appels sur Facebook. Mon oncle me disait quelques noms pour m'aider un petit peu. Donc j'ai retrouvé certaines personnes, d'ailleurs la meilleure amie de Malika qui était là ce jour-là.
Et ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est qu'il est illustré, si je peux le dire ainsi, en tout cas il y a des images qui sont les images qui étaient dans les cartons, j'imagine, des coupures de presse et des photos de famille, des frères et des sœurs. C'est assez touchant d'ailleurs de les voir aussi. Et il y a aussi vous dites que voilà, il y a le voisinage de Fresnes qui vous a soutenu, que vous avez rencontré, et il y a aussi l'institution d'une certaine manière qui vous a soutenu aussi. Il y avait quand même vous avez fait appel à un avocat, la justice pour te demander justice, justement.
J'ai demandé justice,
mais on vous a pas entendu.
On m'a jamais répondu. Voilà. J'ai demandé des archives, comme par hasard, tout a été brûlé.
C'est resté sans suite tout ça. En revanche, il y a quand même la presse qui a fait écho, et ça c'était important aussi parce que c'était le seul lieu où, en tout cas, où on reconnaissait, voilà, je vois des coupures de presse, hein, qui sont des Malika, on veut encore nous cacher la vérité. Donc ça veut dire qu'il y a quand même eu voilà un écho à votre démarche.
Ça, c'était en 73, c'était tous les articles de presse que ma grand-mère
avait conservé.
Puis il y avait une association à Fresnes pour le soutien de la famille.
Et cette association, après, elle vous a, vous les avez pas retrouvés après, longtemps après, non?
L'association s'est arrêtée, puis c'était en 73, les gens vieillissent,
sont plus là.
Décèdent.
Puis ils veulent plus parler, peut-être.
Perdent la mémoire aussi. Donc voilà, c'était une autre époque.
Vous avez dit il y a un instant que Jennifer Yezid, que c'était important, c'est important pour vous de restituer cette histoire pour votre enfant aujourd'hui, pour qu'il sache votre histoire. Votre histoire, elle est aussi pour arriver à votre histoire personnelle, si vous le voulez bien. Évidemment empreinte de cette histoire que vous nous racontez là et dans le livre et ce matin à Beurre FM, c'est une histoire qui vous a porté depuis votre enfance, hein, pour cette quête de vérité. Elle est une histoire personnelle, mais elle rejoint l'histoire collective de tous ces crimes qui ont été commis, hein, ici à Beurre FM. On en a fait largement l'écho avec ce rendez-vous des 40 ans de la marche pour l'égalité contre le racisme. Donc j'en fais écho parce que c'était aussi dire ça, c'était que pendant des années la police, les gendarmes, ce sont les nostalgiques de l'Algérie française ou les amateurs de 22 longs riffs se sont pas gênés pour tirer à bout portant encore en juin dernier sur des jeunes dans les quartiers. Donc c'est aussi un hommage que vous rendez aussi à cette histoire collective.
Oui, tout à fait, parce qu'en en recherchant sur ma tante, j'ai vu qu'il n'y avait pas que Malika. Il y en a des centaines de victimes de violences policières. Donc pour toutes ces familles en fait endeuillées, voilà, fallait faire ce livre.
Et pour vous aussi?
Moi, oui, écrire, ça m'a permis de faire mon deuil, hein, parce que quand même, c'est toute la famille, hein, huit enfants, aucun souvenir de ma mère, et puis mon fils, quand voilà, il grandit, il pose des questions, voilà. Il aura les réponses dans ce livre.
Jennifer Yezid est l'invitée de Voix au chapitre ce dimanche matin. Elle vient de publier Malika, généalogie d'un crime policier. Elle en parle avec émotion et il y a de quoi quand on a perdu un des leurs par une balle policière. Il y a de quoi aujourd'hui s'étonner de ces injustices, s'étonner en tout cas, être déterminé pour les dénoncer comme vous l'avez fait. Je vous retrouve dans un instant.
Chaque fois ça recommence. عزيز الأمر ما يلا يلزم السفر أبصر لا ديفيرونس أبصر لا ديفيرونس ما يلا ولاش لا ريزيدونس Il y aura plus de réminence. Après tout, ça me fera du bien de retourner chez les miens. Je suis un Africain, le soleil en permanence. Le soleil en permanence, pour moi ça a de l'importance. ربي ذا حنني يتفرج يضمنا غم عيش دافانس يضمنا غم عيش دافانس جسكا لا فان ديكزيستانس ses références. Tu sais bien que la terre est ronde, le soleil est pour tout le monde, il brille à travers les hommes, grâce à la providence.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
L'invité de Voix au chapitre ce dimanche matin, je le rappelle, est Jennifer Yezid et nous parlons de Malika, généalogie d'un crime policier. C'est le titre de son ouvrage qui est paru au printemps aux éditions Hors d'un teinte. Nous avons traversé votre vie, une partie de votre histoire, Jennifer Yezid. Et je vous en remercie parce que c'est avec émotion que vous nous racontez une bouleversante histoire familiale, celle de l'assassinat de votre tante. Elle avait 8 ans, Malika Yezid, elle a été tuée en 73 par un gendarme alors qu'elle avait donc ses 8 ans et c'est la seule et vous êtes vous aujourd'hui la seule survivante de cette famille Yezid et vous avez eu un besoin, une volonté, une détermination d'écrire cette histoire qui est une histoire dramatique, je l'ai dit, et qui est une histoire surtout qui restait impunie puisque il n'y a pas eu de justice comme il n'y en a pas eu pour d'autres, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Peut-être que vous demandez sans maladresse, vous êtes apaisé après cette écriture ?
Tout à fait, je suis tout à fait apaisée. Écrire, ça m'a permis de faire mon deuil. Et de voir ce livre, pour moi, c'est magnifique. C'est la seule promesse que j'ai tenue de ma vie. Et pour l'amour de ma grand-mère, pour l'histoire de ma famille, pour, voilà, c'est une sorte de revanche pour toutes les années que j'ai pas eu avec ma mère. Voilà, c'était très important et ça m'a fait énormément de bien d'écrire et que ce livre soit sorti. C'est un rêve d'enfant.
Et comment il est arrivé chez l'éditrice, ce livre ? Vous aviez fait des démarches. Je vois que dans ce livre, il a une postface d'une sociologue importante hein, qui travaille beaucoup sur les questions mémorielles, d'immigration et de justice, qui s'appelle Rachida Brahim. Elle a eu l'occasion de venir à Beurre FM. Hein. Rappelez-nous cette rencontre aussi pour qu'elle choisisse aussi de paraître aussi dans votre histoire.
On m'a proposé plusieurs sociologues et directement, j'ai dit Rachida Brahim. Rachida Brahim, ben, j'ai lu ses livres. Et Rachida Brahim a écrit un livre qui s'appelle La race tue deux fois, où elle cite le nom de Malika.
Et vous l'avez rencontrée donc ?
Elle a écrit, on s'est eu au téléphone, le livre est sorti, après on s'est rencontrés.
Et quand même, c'est important tout ce qu'elle dit. Dites-nous ce qu'elle raconte de sociologiquement de ce que vous avez pu traverser dans votre vie, dans votre famille. Dans l'absence de votre famille, plutôt, c'est important, ça. Je vais lire un extrait, si vous voulez bien. Fermez les yeux, voyez un désert, asseyez-vous à même le sol. Regardez les vôtres s'asseoir à vos côtés, les uns après les autres. Humez l'air et leur parfum. Voyez les couleurs et les plis de leurs vêtements, observez les symboles tracés sur leur peau et les étoffes coiffant leur tête. Vous formez un cercle. Écoutez. Je vois la morsure. Je sais qu'après la morsure, on ne connaît qu'elle. Notre corps frontière garde ses empreintes et entre nous et le monde, il y a d'abord la morsure. Le monde est la morsure et on ne peut s'y mouvoir sans penser au jour où notre visage collectif est devenu une cible. Malika a été tuée par des gendarmes alors qu'elle avait 8 ans. Et toute la famille a subi la morsure, infamie de l'infanticide. Suicide, prison, dépression, overdose. La tragédie, l'abéance et le brasier. Combien de familles ont-elles été mordues ? C'est ça aussi qui vous parle quand je lis cet extrait, qu'elle évoque une histoire en poésie d'une certaine manière et en même temps qui remet l'histoire du drame de votre famille.
Oui.
Vous avez eu envie de parler ?
Non.
Ou ça, vous êtes. Alors je vais poursuivre parce que c'est une émission autour de la littérature, si vous le voulez bien. Je disais, combien de familles ont-elles été mordues ? Dans quelle impuissance ont-elles été maintenues ? Où commence la morsure qui peut tranquillement mener à la destruction de familles entières au sein d'un même pays ? Que révèle le silence du dit pays sur la morsure ? Que nous apprend le cœur battant des Yézides qui transcendent malgré tout l'espace et le temps des arrière-grands-parents nés au début du XXe siècle en Algérie, au petit Lika, fils de Jennifer Yézide, petit-neveu de Malika Yézide, née en 2019 en France. Fazia, la victorieuse, sœur de Malika, la souveraine et mère de Jennifer. La silhouette blanche a un jour écrit « Le sang des Yézides est une malédiction ». En sociologie, une malédiction s'appelle un rapport de domination. Une société, c'est la profusion de la vie sur Terre transformée en ressources matérielles et symboliques, c'est-à-dire en argent et en pouvoir. Un peu plus loin. Regardez-vous en laideur et en humilité. Le projet, c'est les inégalités et leur maintien. Et nous allons là dans l'abject de cette folie-là, toujours avec le cœur en dehors de la poitrine. Assignés avant le premier souffle, nous cherchons des clés et des portes. Nous prenons des marteaux et des coups. Et Lucas, la lumière. Sans borne. Nos ancêtres et nos enfants nous obligent, et sur chaque continent, les peuples mordus inventent des formes inouïes de résistance pour subvertir le pouvoir institué morne et mortifère. À nous tenir debout, malgré tout à différents endroits du globe, nous lui arrachons des droits et forçons le respect. Aujourd'hui, on est en 2023, vous avez 30 ans, un tout petit peu plus, je crois, et vous allez de l'avant. De l'avant, puisque ce livre est fermé maintenant dans notre rencontre, puisque nous en avons fait le tour. Et comment vous projetez-vous par rapport à ce passé, un passé est derrière, mais aller de l'avant, c'est pas l'oublier, ce passé. Je vous remercie infiniment d'être venu ce dimanche matin, Jennifer Yézide, parler à Beurre FM de votre livre, Malika, généalogie d'un crime policier. Je l'ai rappelé, je l'ai lu. Le livre, il a une postface remarquable de Rachid Abrahim. Ce livre vient de paraître aux éditions Hors d'atteinte. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir à tous, au revoir à toutes. Au revoir.
Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.